Vous écoutez, on lit pour vous.
On est rendu là. L'utilisation des préjugés envers les personnes en situation de handicap comme argumentaire dans les médias, un texte de Nadège Fortier, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Vous prenez peut-être chaque matin le temps de lire votre journal favori, un café à la main, comme des millions de Québécois. On évalue en effet à 3 millions de personnes le lectorat du Journal de Montréal et à 2 millions celui de la presse. Chaque matin, donc, vous survolez les nouvelles et les chroniques. Dans certains médias, les donneurs d'opinion sont des vedettes qui attirent les clics. Les sujets traités créent de l'émotion et aident les lecteurs à se faire une tête sur différents enjeux. Bien souvent, en utilisant des préjugés et idées préconçues qui viennent blesser l'image des minorités visibles, de la communauté LGBTQ ou des personnes en situation de handicap. Le 6 septembre dernier, Régis Labeaume se plaignait de la pénurie de main-d'œuvre et du peu de solutions proposées par le gouvernement. On entend qu'il faudra permettre à plus de handicapés d'entrer sur le marché du travail, par exemple. Pardon? On en est vraiment rendu là? Il enchaîne même sur la possibilité de faire travailler les prisonniers, chaînes aux pieds, comme dans un vieil album de Lucky Luke. Nous ne connaissons pas les biais de M. Labeaume. L'ancien maire de Québec se voulait peut-être bienveillant. Il se disait peut-être que les personnes en situation de handicap vivent assez de complications, voire de souffrances, pour les encourager à trouver un emploi. Quoi qu'il en soit, en écrivant ces mots, il disait tout haut ce que de trop nombreux Québécois pensent tout bas. Les personnes en situation de handicap n'ont pas leur place sur le marché du travail. Le statut de donneur d'opinion de M. Labeaume a contribué à légitimer cette opinion. Certains éditorialistes semblent, d'un autre côté, penser que la vie des minorités, quelle qu'elle soit, est pavée de privilèges. Dans un texte du 10 août dernier, Sophie Durocher s'enflamme à propos des exigences du CRTC envers Radio-Canada, dont une portion fixe des dépenses de programmation indépendante consacré à la programmation produite par les peuples autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s'auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Madame Durocher s'offusque du préjudice que cette nouvelle politique crée pour les hommes blancs, hétérosexuels et sans limitation physique. Au bingo de la télé et de la radio, vous marquez plus de points si vous êtes une femme. Pardon? Si vous vous auto-identifiez comme femme, en plus de gagner des points si vous êtes inou, sénégalais, paraplégique ou si vous êtes queer, non-binaire, pardon, si vous vous auto-identifiez comme queer non-binaire. Mais si vous êtes né dans un corps de gars ou de Shawinigan, si vous couchez avec la même femme depuis 20 ans et que vous avez vos deux bras et vos deux jambes, vous descendez en bas de la liste. Elle a tout à fait le droit d'être en désaccord avec la politique en question. Elle peut en faire ressortir les possibles dérives à sa guise. La façon dont elle le fait est cependant néfaste, car elle propage des préjugés qui, mêlés à l'impression d'injustice qu'elle souligne à gros traits, s'embraseront dans l'esprit du lectorat. Dès lors, pour certains lecteurs, il sera évident que la société est en guerre contre l'homme blanc, alors qu'il n'est question que d'équité dans la représentation de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Le but du présent article n'est pas de faire la recension de tous les préjugés partagés dans les médias. Ce type de texte nécessiterait de nombreuses heures de recherche. Sa lecture serait blessante pour toute personne ayant un handicap ou sensibilisée à leur situation. Gardons en tête cependant que les donneurs d'opinion joignent de nombreux lecteurs moins informés que nous, dont l'opinion pourrait être teintée par ces discours répétés dans les pages de leur quotidien préféré. Pour la prochaine année, souhaitons plus de bienveillance, d'introspection et d'ouverture de la part des donneurs d'opinion. Souhaitons aussi de la force et de la patience à toutes celles et ceux qui vont participer à déconstruire auprès de leur entourage tous ces préjugés qui ont la vie dure parce qu'on est en 2023. C'était « On est rendu là, l'utilisation des préjugés envers les personnes en situation de handicap comme argumentaire dans les médias », un texte de Nadège Fortier paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad.
À la rencontre de quatre plumes franco-canadiennes. Un texte d'Alexandra Gerzibowska, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Nous vous présentons plusieurs auteurs établis dans différentes provinces du Canada et se faisant un point d'honneur d'écrire en français. Les entrevues, dont on reproduit ici des extraits, ont été menées par le Centre de la francophonie des Amériques, qui vous invite d'ailleurs à visiter le site bibliothèquedesamériques.com pour découvrir encore plus d'entrevues et d'informations sur les auteurs franco-canadiens. Entrevue avec Martine Noël-Ma. Auteur, traductrice, éditrice et dramaturge, Martine Noël-Ma demeure à Regina, en Saskatchewan, depuis 1993. En plus d'écrire et de participer à des événements littéraires au Canada comme en Europe, cette écrivaine a longtemps enseigné le français langue seconde à l'Université de Regina. Diplômée en littérature française de l'Université de Montréal, elle a reçu le prix SATA 2020 du meilleur texte dramatique pour sa pièce Will et Ernest 2020 et deux Saskatchewan Book Awards pour Amélia et les papillons 2006 et Dans le pli des collines 2010. Récemment, elle publiait Laïka, où es-tu? Chez La Nouvelle Plume. Quels domaines nourrissent vos projets littéraires? Mes écrits sont beaucoup nourris par la Saskatchewan et sa riche histoire. Qu'il s'agisse de Fort Sam, un ancien sanatorium situé dans la vallée Qu'appelle, le Big Dick du lac Wascana, un projet pharaonique du début des années 2000, la contrebande d'alcool et le bousorium des frères Bronfman a bien fait dans les années 1920, l'ancien zoo et le parc de la vallée Wacamo de Moose Jaw, ou une vieille école abandonnée près de Spiritwood. Je suis aussi inspirée par des personnages historiques qui ont vécu en Saskatchewan comme Louis Riel et Ernest Dufault, alias Will James. Quelle est la genèse de la pièce de théâtre Will et Ernest, La Nouvelle Plume? J'ai découvert cet homme au destin extraordinaire dans le documentaire « Alias Will James » de Jacques Godbout, auteur et cinéaste québécois. Quand j'ai su que ce héros américain était en réalité un petit gars de Saint-Nazaire-d'Acton au Québec, j'ai voulu écrire un roman jeunesse pour faire découvrir ce personnage haut en couleur, méconnu dans la francophonie. De fil en aiguille, le roman a bifurqué vers le théâtre. 5 années de recherche et d'écriture ont abouti à la pièce, mais aussi à un roman adapté de celle-ci, de même qu'à un roman jeunesse, tous deux à paraître. Ernest Dufault, alias Will James, 1892-1942, est un Québécois d'origine, dessinateur et auteur d'une douzaine de romans qui a passé sa vie adulte aux États-Unis. Il est devenu l'incarnation du cow-boy d'Hollywood et de l'Ouest américain en reniant ses origines. Citation: « Je suis un artiste. J'ai arrangé les choses pour donner aux lecteurs ce qu'ils attendaient d'un vrai cow-boy. Si j'avais raconté que je suis né dans une bonne famille catholique unie et heureuse, ça aurait pas ému personne. Ça aurait pas fait Far West. » Fin de citation. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce personnage absolument fascinant et déraciné? Ce qui m'a séduite, outre son talent d'auteur et d'illustrateur, c'est le fait qu'il a réussi à dissimuler sa véritable identité. Il s'est inventé une enfance américaine dans sa pseudo-autographie « Lone Cowboy, My Life Story », dans laquelle il se présente comme un jeune orphelin qu'un vieux trappeur canadien-français a pris sous son aile. Ce n'est qu'en 1967, soit 25 ans après sa mort, que sa véritable identité a été révélée dans le livre d'Anthony Amaral intitulé « Will James, The Gilt-Edged Cowboy ». Chapeau! Votre roman « Laïka, où es-tu » a été développé à partir d'ateliers tenus avec des jeunes de Regina. De quelle façon ces élèves ont-ils participé à cette histoire où il est question d'une météorite, de la légende des Skinwalkers et d'extraterrestres, et qui nous entraîne dans les beautés des Badlands d'Avonlea aux côtés d'une géologue de la NASA? Les ateliers que j'anime pour mes projets destinés à la collection Escapade, la Nouvelle Plume, sont de formidables occasions de sonder l'imaginaire des jeunes. Nous faisons des remue-ménages sur tous les aspects qui composent un roman et les choix sont faits par vote secret. Les lieux, les personnages, les intrigues, etc. Le principal apport des élèves pour « Laïka, où es-tu » est un trio de personnages pas banals composé de Sophie, géologue de la NASA et sa chienne Laïka, et M. Chèvre, un homme qui a perdu ses jambes à la suite d'un accident et à qui on a greffé des pattes de chèvre. Au terme des 6 ateliers, je repars avec ce que je décris comme un filet de pêche. Quand j'entame l'écriture, une trame se dessine, mais elle est pleine de trous. J'ai mis près d'un an à créer ce roman qui allie aventure, horreur et mystère. Cette histoire porte aussi à réfléchir sur la façon dont nous traitons les animaux et sur l'avenir de la planète. Ce genre de projet est très stimulant, car je ne sais jamais à quoi m'attendre. Quand j'arrive dans une classe, c'est carte blanche. Le seul élément imposé est que l'histoire va se dérouler en Saskatchewan. On offre ainsi aux jeunes d'ici des histoires qui se passent dans des lieux qu'ils connaissent ou dont ils ont déjà entendu parler. Et j'ai pu constater à travers les multiples présentations que j'ai faites d'un bout à l'autre du pays que ces romans plaisent aux jeunes de partout. Ils leur permettent de découvrir un coin de pays souvent négligé. La Saskatchewan, c'est beaucoup plus que la plaine, comme en fait foi le décor envoûtant des Badlands d'Avonlea. Lequel de vos romans est le plus important pour vous? Que voulez-vous que les jeunes lecteurs apprennent de cette histoire? Je dirais 3 millions de pas, Urtubise, qui raconte l'histoire de Laetitia qui traverse à pied l'Italie, la France et l'Espagne dans l'espoir de retrouver son père. Ce roman m'a été inspiré par mes marches sur le chemin de Compostelle. Même si l'histoire se passe en Europe à la fin des années 1800, elle est très proche de moi. C'est un périple à travers les pays et les émotions qui témoignent de l'attachement d'une fille pour son père. La détermination et la persévérance dont fait preuve Laetitia l'amèneront vers des retrouvailles bouleversantes avec ses souvenirs enfouis. Des critiques en ont dit que la fin est étonnante et sublime. J'avoue que j'ai moi-même été surprise en l'écrivant, car l'histoire ne se conclut pas comme je l'avais prévu. C'est la magie de la création. Cependant, si vous désirez avoir une bonne frousse, je recommande « Les fantômes de Spiritwood », la Nouvelle Plume. Je sais que ce roman a fait trembler bien des lecteurs. Quels sont les référents culturels de l'Ouest canadien que vous faites découvrir à vos jeunes lecteurs? Je m'inspire principalement de faits et de lieux liés à la Saskatchewan. Par exemple, la biographie « Louis Riel, combattant métis », Isatis, m'a permis de découvrir et de partager l'histoire de celui qu'on surnomme le père du Manitoba, une figure marquante du développement de l'Ouest canadien. Vous écoutez « À la rencontre de 4 plumes franco-canadiennes », un texte d'Alexandra Gerzibowska, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Entrevue avec Gabriel Ausson. Poète, romancier et artiste peintre d'origine haïtienne, Gabriel Ausson est maintenant établi à Toronto. Très impliqué dans la francophonie torontoise, il est notamment président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, AAOF, et anime l'émission radiophonique Franco-Découverte à CHOQ-FM. Retraité du ministère de l'Éducation de l'Ontario, où il a œuvré pendant 10 ans, il se consacre aujourd'hui à plein temps à l'écriture, donne des conférences sur le sujet et anime des ateliers d'écriture pour jeunes et retraités. Pour Gabriel Hausson, connaître l'histoire de son pays et de son peuple est primordial, qui que nous soyons. En 2017, vous publiez un premier roman, Hubert le reste avec, édition David, qui raconte les vies de ces enfants haïtiens qui sont exploités, forcés de rester avec des gens qui les contraignent à travailler dans des conditions insupportables. En racontant cette histoire, avez-vous essayé de réparer cette injustice sociale? Mon premier but, je voulais surtout faire connaître le sort de ces enfants invisibles et sans voix. Conscientiser le monde entier au sort de ces enfants abandonnés à eux-mêmes, sans défense et sans personne pour défendre leur cause. On leur vole littéralement leur enfance et la société haïtienne qui perpétue ce phénomène reste muette et aveugle devant leurs problèmes. Mon second, remettre toutes mes redevances d'auteur provenant de la vente de ce livre à un organisme d'aide au reste avec afin d'aider ces enfants. En janvier 2020, votre deuxième roman, « Le jour se lèvera », édition David, attire l'attention du grand public au Canada. Quelle est sa genèse? En 1964, 13 jeunes du mouvement Jeune Haïti quittent Miami pour tenter de renverser le régime de François Duvalier. Lors de la commémoration du 50e anniversaire de l'exécution de deux d'entre eux sur la place publique, je me suis rappelé ma présence en ces lieux et c'est en remontant le cours de l'histoire que m'est venue l'idée du roman. Puis, je me suis rendu compte que l'histoire de ces jeunes et de Jeune Haïti était mal connue ou peu connue. Il n'en est pas fait mention dans aucun manuel scolaire récent et la génération actuelle n'a pas entendu parler d'eux ni de leurs faits d'armes. J'ai appris chemin faisant qu'il faut réhabiliter l'histoire avec un grand et un petit H. J'ai adoré, grâce à la liberté du roman, pouvoir laisser libre cours à mon imagination et donner une vie différente à ces jeunes héros venus mourir pour un idéal de liberté, surtout leur parcours dans le maquis et dans les montagnes haïtiennes. Vous avez choisi les chemins de la littérature pour parler de votre pays natal, Haïti, et évoquer son histoire complexe. Qu'en attendez-vous? J'ai quitté Haïti assez jeune et un grand pan de son histoire, ancienne et récente, m'avait échappé. Après le séisme de 2010, j'ai cru bon de me retremper dans son histoire autant écrite que réelle, en y retournant chaque année comme volontaire pour aider à former des enseignants au sein d'un petit groupe. L'écriture me permet de faire sortir Haïti du folklore et de présenter sa beauté tant à travers mes romans que dans ma poésie. La littérature récente d'Haïti est riche et variée, tant par ses auteurs qui viennent dans le pays que par ceux qui résident à l'étranger. J'essaie par mes écrits de lever un pan du voile de cette complexité. La littérature, c'est comme peler un oignon. Chaque couche en révèle une autre plus belle, plus riche en saveur. Il faut de la patience et de la persévérance pour en découvrir le cœur. Qu'est-ce qui vous enchante dans la culture francophone du Canada? Sa diversité, sa résistance et sa force à traverser le temps et à s'enrichir au passage de mots, d'expressions qui lui est propre tout en gardant vivante la langue et la culture francophone. Entrevue avec J.R. Léveillé. Né dans une petite communauté canadienne-française au cœur du grand Winnipeg anglophone, Joseph-Roger Louis Léveillé est une figure de proue de la littérature franco-manitobaine. Auteur d'une trentaine d'œuvres, dont l'incomparable « Le soleil du lac qui se couche », il fut intronisé au temple de la renommée de la culture au Manitoba pour sa contribution à la littérature en 1999. Fasciné par le métissage des cultures, J.R. Léveillé fait une place importante dans son œuvre à la magnificence de la nature et à la réflexion spirituelle. « Le soleil du lac qui se couche », édition Dublé 2001, La Peuplade 2013, est votre roman le plus lu, également traduit dans plusieurs langues dans le monde entier. Vous y racontez l'histoire d'amour intemporel entre deux êtres de différentes origines. Angèle, une étudiante métisse en architecture, rencontre dans une galerie d'art un vieil artiste japonais, Reno. Évoquer différentes nationalités et cultures, est-ce une façon de traduire le métissage propre au Manitoba et au Canada? Tout à fait. D'ailleurs, le métissage me semble le modus operandi même de l'écriture. C'est le clinamen d'Épicure, cet accrochage gratuit d'atomes qui est le fondement de l'être, la porte ouverte sur d'autres univers. Par son enracinement dans le pays, ce roman est un hommage aux origines métisses et bilingues du Manitoba. Par son croisement avec le Japon zen, il redouble le métissage comme ouverture à l'autre. Cette histoire d'amour qui a obtenu l'agrément des lecteurs est celle d'un croisement multiple, exemplaire de tout progrès et du bonheur. C'est un roman d'apprentissage et d'appréciation. Le soleil du lac qui se couche est composé de petits fragments, des paragraphes éparpillés sur une grande toile d'araignée qui compose un tout. Pourriez-vous nous dévoiler la genèse de ce roman? J'étais à Saint-Laurent, communauté métisse, sur les rives du lac Manitoba, où je passe tous mes étés. Je lisais un roman japonais populaire et me suis dit que j'allais prendre un mot, une idée ou une situation dans chaque page du roman comme tremplin pour composer mon propre récit. Ainsi, ces fragments sont composés au fur et à mesure de la lecture. Le résultat n'a rien à voir avec le roman d'origine, sauf pour cette matière brute première. C'est une méthode que j'ai utilisée ailleurs, une autre forme de mixité dans le métissage. On dit souvent que chaque écrivain écrit et réécrit toujours le même thème. Quel est le thème qui vous est le plus cher? Selon les propos de Jean Ricardou, ce serait l'aventure d'une écriture plutôt que l'écriture d'une aventure. Je n'ai jamais eu d'intérêt pour créer des histoires ou des personnages. Il y en a un peu, certes, mais avant tout, j'écris un livre comme on peint un tableau. Tout comme Matisse disait, « Je ne peins pas une femme, je peins un tableau. Je demeure dispo et je suis la coulée de l'encre qui me renseigne. » Gagné Chaumont ou L'extase du temps est votre plus récent roman paru en 2020 aux éditions du Blé. Quelle est la signification du titre? Gagné Chaumont est un mot autochtone signifiant « le passage entre deux eaux ». C'est ainsi qu'on décrivait ce modeste tracé qui passait entre le petit lac Francis à l'est et le grand lac Manitoba à l'ouest. Le terme convient aussi au concept bouddhiste de « la voie du milieu » pour traverser les illusions de la vie. Ça correspond également au « wu wei zen », soit la non-action. C'est ainsi que nous entrons dans l'extase du temps. Que vous inspirent les mots « francophonie » et « francophilie » sur le grand continent américain? Comme je suis née dans une petite communauté canadienne-française au cœur du grand Winnipeg anglophone, la francophonie est à la fois une identité et une altérité. Je suis bilingue, certes, mais je ne parlerai jamais « white ». Cette spécificité géographique et la singularité des origines font qu'au départ, la francophonie a toujours été plurielle pour moi, soit un réseau d'autres francophonies, celles de Saint-Boniface, des villages manitobains, des autres minorités canadiennes, de la Franco-Amérique, des Caraïbes. Finalement, il s'agit d'une langue passeur vers son expression et son expérience diverses et culturelles. Ce à quoi je convie tous les francophiles qui, par définition, sont déjà, heureusement, métissés en esprit. Vous écoutez « À la rencontre de quatre plumes franco-canadiennes », un texte d'Alexandra Gerzibowska, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Entrevue avec Françoise Engard. Native de Saint-Pierre-et-Miquelon, Françoise Engard est une écrivaine reconnue et une journaliste établie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve depuis près de 50 ans. Elle puise son inspiration dans l'océan qui l'entoure et dans ses diverses racines, françaises, acadiennes et irlandaises. Femme passionnée de l'histoire des communautés francophones, elle a été engagée dans l'organisation du premier festival littéraire francophone de la province. Elle a remporté le prix des lecteurs de Radio-Canada et le prix littéraire Antonine Maillet Acadie Vie pour L'archipel du docteur Thomas, prise de parole 2009. En octobre 2022, elle faisait paraître Le maître de Conches, prise de parole, un roman qui nous plonge dans un conflit entre pêcheurs français et colons anglais au 19e siècle. Qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire? L'histoire me stimule beaucoup. J'aime imaginer le quotidien de ceux et celles qui occupaient le territoire avant nous. Mais surtout, je suis portée par la mer et ce qu'elle éveille en moi d'émotions, de possibilités. Son odeur, ses couleurs, ses vents, le bruit d'une coque qui fend les vagues ou celui des voiles tendues dans le vent, tout cela mène très loin, au propre comme au figuré. Quelle est la genèse du maître de Conches? Qu'est-ce qui vous a séduite dans l'histoire de ce village? J'ai découvert Conches et les environs au début des années 2000 et j'ai été conquise par l'endroit, isolée de tout, face à la mer, mais surtout par les femmes que j'y ai rencontrées. Il y a là-bas un esprit communautaire et visionnaire peu commun et qui est absolument communicatif. Lorsqu'on m'a parlé de l'histoire de celui que j'appelle le maître de Conches, j'ai tout de suite eu envie de lui consacrer un roman tant il me semblait qu'il présidait encore, d'une certaine façon, aux destinées de son village. Vous évoquez la relation entre Français et Anglais sur la côte de Terre-Neuve au début du 19e siècle. De quoi s'agit-il? Les pêcheurs français ont été une constante sur les côtes de Terre-Neuve depuis le 16e siècle et jusqu'au début des années 1900. Cela me fait dire souvent que nous avons été les premiers à voir les Français arriver en Atlantique et les derniers à les voir partir. Jusqu'en 1904, une grande portion des côtes de l'île de Terre-Neuve était occupée d'avril à septembre par des milliers de pêcheurs de morue, principalement bretons et normands. Ils devaient cohabiter le mieux possible avec les colons anglais installés eux aussi sur les côtes, un exercice rempli d'embûches. C'est un aspect bien peu connu de notre histoire, que ce soit ici au Canada ou en France. Vous êtes autrice de plusieurs romans qui s'adressent aux adultes comme aux jeunes. Quel est le grand thème qui traverse toutes vos œuvres littéraires? Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Toute mon écriture est une réflexion sur l'appartenance au sens large, sur l'identité culturelle et linguistique, bien sûr, mais aussi sur ce que les anglophones nomment joliment le « sense of place ». Que ce soit le personnage d'Elvis Bozek qui cherche le trésor de l'île Rouge, le trésor d'Elvis Bozek, Bouton d'or Acadie 2011, et les traces de ses ancêtres bretons, le docteur Thomas qui rentre en France et ne s'y sent plus à sa place, Victor le métayer qui quitte sa Bretagne sans aucun regret, et mon arrière-grand-mère qui peine à s'adapter à l'île aux marins, tous mes personnages tentent de répondre à une question fondamentale. Qui suis-je lorsque mes repères changent? Que signifie pour vous être francophone à notre époque? Être francophone partout dans les Amériques, c'est se lever chaque matin fier de sa culture, c'est faire le choix de cultiver sa langue, de la parler, de la partager et de la protéger. Être francophone, c'est un engagement, une détermination, c'est préférer l'effort à la facilité qui serait de parler anglais, parce que ce serait tellement plus simple. C'était « À la rencontre de quatre plumes franco-canadiennes », un texte d'Alexandra Gerzibowska, paru le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ». ».